question. Comment un EHE peut-il y arriver? Les humains sont-ils capables d'une telle maîtrise de leurs émotions? Réponse. Pour répondre à ta première question, un EHE comprend que toutes les choses sont parfaites, mais qu'il existe dans l'univers un processus qui se résout de lui-même et qu'ils n'ont qu'à ne pas interférer. Ainsi, un EHE ne s'inquiète jamais car il comprend ce processus. Pour répondre à ta seconde question, oui, les humains possèdent ce genre de maîtrise, mais certains ne croient pas l'avoir et d'autres choisissent tout simplement de ne pas l'exercer. Les rares individus à faire un effort dans ce sens vivent beaucoup plus longtemps. En supposant que les produits chimiques et les poisons atmosphériques ne les aient pas tués et qu'ils ne se soient pas volontairement empoisonnés autrement. Question. Minute. Nous nous empoisonnons volontairement? Réponse. Certains d'entre vous, oui. Question. Comment? Réponse. Comme je l'ai dit, vous avalez des poisons à même la nourriture. D'autres le font à même ce qu'ils boivent. Certains d'entre vous en fument. Un être hautement évolué trouve tous ces comportements incompréhensibles. Il ne peut imaginer pourquoi vous laisseriez délibérément entrer dans votre corps des substances qui, vous le savez, ne peuvent vous faire du bien. Question. Eh bien, nous trouvons agréable de manger, de boire et de fumer certaines choses. Réponse. Un EHE trouve agréable la vie du corps et ne peut s'imaginer faire des choses qui, il le sait d'avance, pourraient la limiter ou y mettre fin, sinon la rendre pénible. Question. Certains d'entre nous ne croient pas que le fait de manger de la viande rouge en abondance, de boire de l'alcool ou de fumer des plantes limitera leur vie ou y mettra fin, ou la rendra pénible. Réponse. Alors, vos capacités d'observation sont très émoussées. Elles ont besoin d'être aiguisées. Un EHE vous suggérera tout simplement de mieux regarder autour de vous. Question. Eh bien, oui, que peux-tu m'apprendre d'autre sur la vie dans les sociétés hautement évoluées de l'univers? Réponse. La honte n'existe pas. Question. Pas de honte? Réponse. Ni de culpabilité. Question. Et lorsqu'un être se révèle un mauvais intendant du sol, tu viens de dire qu'on lui en retire la responsabilité. Cela ne sous-entend-il pas qu'il a été jugé et trouvé coupable? Réponse. Non. Cela signifie qu'il a été observé et trouvé incapable. Dans des sociétés hautement évoluées, on n'exigerait jamais des êtres de faire une chose pour laquelle ils ont démontré leur incapacité. Question. Et s'ils le voulaient tout de même? Réponse. Ils ne le voudraient pas. Question. Pourquoi pas? Réponse. Leur propre incapacité éliminerait tout désir. Leur intelligence les amène tout naturellement à reconnaître leur incapacité de faire une chose en particulier qui pourrait causer un tort potentiel à un autre. Ils ne le feraient jamais, car nuire à l'autre, c'est nuire à soi, et ils le savent. Question. Ainsi, c'est encore la préservation de soi qui mène l'expérience, tout comme sur Terre? Réponse. Certainement. La seule chose qui soit divergente, c'est leur définition du soi. Un être humain définit le soi de façon très étroite. Vous parlez de votre soi, de votre famille, de votre communauté. Un EHE définit le soi d'une manière assez différente. Il dit le soi, la famille, la communauté. Question. Comme s'il n'y en avait qu'un. Réponse. Il n'y en a qu'un. Tout est là. Question. Je comprends. Réponse. Ainsi, dans une culture hautement évoluée, un être ne pourrait jamais insister pour élever une progéniture s'il démontrait de façon constante sa propre incapacité de le faire. Voilà pourquoi dans les sociétés hautement évoluées, les enfants n'élèvent pas les enfants. Leur progéniture est plutôt confiée aux aînés. Cela ne veut pas dire qu'on arrache cette nouvelle progéniture à ceux qui leur ont donné la vie, qu'on enlève les enfants de leurs bras pour les donner à des quasi-inconnus qui les élèveront. Pas du tout. Dans ces cultures, les aînés vivent étroitement avec les jeunes. Ils ne sont pas rejetés dans la solitude. Ils ne sont pas ignorés et laissés seuls à résoudre la dernière partie de leur destinée. Ils sont honorés, vénérés et gardés à proximité, au sein d'une communauté affectueuse, tendre et vivante. Lorsqu'arrive une nouvelle progéniture, les aînés sont tout près, au cœur même de cette communauté et de cette famille. L'éducation des enfants par les aînés est tout aussi organiquement correcte que le fait d'avoir, dans votre société, des parents pour le faire. La différence est la suivante. Bien que ces enfants sachent toujours qui sont leurs parents, le terme le plus rapproché dans leur langage serait « donneur de vie ». On ne leur demande pas d'apprendre les choses fondamentales de la vie d'être qui sont encore eux-mêmes en apprentissage de ces mêmes choses. Dans les sociétés de HE, les aînés organisent et supervisent le processus d'apprentissage, de même que le logement, l'alimentation et les soins aux enfants. Ceux-ci sont élevés dans un environnement de sagesse et d'amour, de très grande patience et de profonde compréhension. Les jeunes qui leur ont donné vie sont habituellement ailleurs, à relever des défis, à faire l'expérience des joies de leur propre jeune vie. Ils peuvent passer autant de temps qu'ils le désirent avec leur progéniture. Ils peuvent même habiter dans le logement des aînés avec leurs enfants afin d'être sur place avec eux dans un environnement domestique et pour que les enfants puissent partager un tel cadre avec eux. Tout cela constitue une expérience très unifiée, intégrée. Mais ce sont les aînés qui élèvent les enfants, qui en prennent la responsabilité. Et c'est un honneur, car c'est sur eux que repose la responsabilité de l'avenir de toute l'espèce. Et dans les sociétés de HE, il est entendu que ce serait trop exigé de la part des jeunes. J'ai déjà touché ce point lorsque nous avons parlé de la façon d'élever vos enfants sur votre planète et de la manière dont vous pourriez changer ce qui est à changer. Question. Oui, et merci de l'expliquer davantage et de souligner comment cela pourrait fonctionner. Mais revenons à notre dialogue. Un EHE ne ressent ni culpabilité, ni honte, peu importe ce qu'il fait ? Réponse. Non. Parce que la honte et la culpabilité sont des sentiments imposés à un être de l'extérieur de lui-même. Elles peuvent ensuite être intériorisées, sans aucun doute, mais elles sont initialement imposées de l'extérieur. Toujours. Aucun être divin, et tous les êtres sont divins, ne sait jamais que lui-même, ou que ce qu'il fait, est honteux ou coupable, jusqu'à ce que quelqu'un d'extérieur à lui-même lui donne cette étiquette. Dans votre culture, un bébé a-t-il honte de ses habitudes d'aller à la toilette ? Bien sûr que non, pas avant que vous ne lui disiez. Un enfant se sent-il coupable de se faire plaisir avec ses organes sexuels ? Bien sûr que non, pas avant que vous lui disiez de se sentir coupable. Le niveau d'évolution d'une culture se mesure par sa façon de juger qu'un être ou un geste est honteux ou coupable. Question. Est-ce qu'aucun geste ne peut être qualifié de honteux ? Une personne n'est-elle jamais coupable, peu importe ce qu'elle fait ? Réponse. Comme je te l'ai déjà dit, le bien et le mal n'existent pas. Question. Y a-t-il des gens qui ne comprennent pas encore cela ? Réponse. Pour bien saisir ce qu'on explique ici, il faut lire ce dialogue intégralement. Le fait de tirer des affirmations hors de leur contexte pourrait les rendre incompréhensibles. Les tomes 1 et 2 contiennent des explications détaillées sur la sagesse décrite ci-dessus. Tu me demandes ici de décrire les cultures hautement évoluées de l'univers. Elles comprennent déjà cette sagesse. Question. D'accord, quelles sont les autres caractéristiques qui différencient ces cultures de la nôtre ? Réponse. Bien des choses. Ces êtres ne se font pas concurrence. Ils savent que lorsque quelqu'un perd, tout le monde perd. Par conséquent, ils ne créent ni sport ni jeu qui enseigne aux enfants et perpétue chez les adultes l'extraordinaire pensée selon laquelle le fait que quelqu'un gagne tandis qu'un autre perd relève du divertissement. Aussi, comme je l'ai encore dit, ils partagent tout. Lorsqu'un autre est dans le besoin, ils n'imagineraient jamais garder ou accumuler des choses uniquement à cause de leur rareté. Au contraire, ce serait pour eux la raison même de les partager. Dans votre société, le prix monte lorsqu'une chose est rare et que vous voulez la partager. Ainsi, vous faites en sorte que, si vous allez partager quelque chose que vous possédez, au moins vous vous enrichirez en le faisant. Les êtres hautement évolués sont également enrichis en partageant des choses rares. La seule chose qui soit différente entre les EHE et les humains, c'est la façon dont les EHE définissent l'enrichissement. Un EHE se sent enrichi lorsqu'il partage tout librement, sans ressentir le besoin d'en tirer profit. En effet, c'est ce sentiment qui constitue le profit. Plusieurs principes directeurs dans votre culture sous-tendent vos comportements. Comme je l'ai mentionné déjà, l'un des plus fondamentaux est la survie du plus fort. On pourrait dire que c'est là votre second principe directeur. Il est à la base de tout ce que votre société a créé. Son économie, sa politique, ses religions, son éducation, ses structures sociales. Mais aux yeux d'un être hautement évolué, ce principe même est un oxymore. Il se contredit lui-même, puisque le premier principe directeur d'un EHE est « Nous ne faisons tous qu'un. Le « un » n'est pas fort, à moins que le « tout » ne soit fort. La survie du plus fort est donc impossible, ou la seule chose qui soit possible, c'est donc une contradiction, puisque le plus fort n'est pas fort, à moins que la survie ne soit impossible. Me suis-tu ? Question. Oui. Nous appelons cela le communisme. Réponse. Sur votre planète, vous avez rejeté du revers de la main tout système qui ne permettait pas l'avancement d'un être aux dépens d'un autre. Si un système gouvernemental ou l'écologie exige une tentative de distribution équitable à tous, des bénéfices créés par tous, avec les ressources appartenant à tous, vous dites que ce système gouvernemental viole l'ordre naturel. Mais dans les cultures hautement évoluées, l'ordre naturel est le partage équitable. Question. Même si une personne ou une collectivité n'a rien fait pour la mériter, même si elle n'a d'aucune manière contribué au bien commun, même si elle est méchante? Réponse. Le bien commun est la vie. Si vous êtes en vie, vous contribuez au bien commun. Il est très difficile pour un esprit d'être dans la forme physique. Accepter de prendre une telle forme équivaut en un sens à un grand sacrifice, mais un sacrifice nécessaire et même apprécié. Si le tout doit se connaître de façon expérientielle et se recréer à nouveau dans la prochaine version la plus grandiose de la plus grande vision qu'il ait jamais entretenue à propos de qui il est, il est important de comprendre ce que nous sommes venus faire ici. Question. Nous? Réponse. Les âmes qui composent le collectif. Question. Tu me perds? Réponse. Comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a qu'une seule âme, qu'un seul être, qu'une seule essence. Certains d'entre vous l'appellent Dieu. Cette seule essence s'individualise sous la forme de chaque chose dans l'univers, autrement dit, tout ce qui est. Cela comprend tous les êtres conscients ou ce que vous avez choisi d'appeler les âmes. Question. Alors Dieu représente chaque âme qui existe? Réponse. Chaque âme qui existe maintenant et jamais existé et existera jamais. Question. Alors Dieu est un collectif? Réponse. C'est le mot que j'ai choisi, parce que c'est celui qui se rapproche le plus, dans votre langage, de la manière dont les choses se passent. Question. Pas un être unique et impressionnant, mais un collectif. Réponse. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ne pense pas à cocher des cases. Question. Dieu est les deux. Un unique être impressionnant qui correspond au collectif de parties individualisées. Réponse. Bien, très bien. Question. Et pourquoi le collectif est-il venu sur Terre? Réponse. Pour s'exprimer sous forme physique, pour se connaître dans sa propre expérience, pour être Dieu, comme je l'ai déjà expliqué en détail dans le tome 1. Question. Tu nous as créés pour être toi? Réponse. Nous l'avons fait, en effet. C'est exactement pour cette raison que vous avez été créés. Question. Et les humains ont été créés par un collectif? Réponse. Dans votre propre Bible, on pourrait lire cette phrase. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance avant que l'on ne change la traduction. La vie est le processus par lequel Dieu se crée, puis fait l'expérience de la création. Ce processus de création est continu et éternel. Il se déroule tout le temps. La relativité et la dimension physique sont les outils avec lesquels Dieu travaille. L'énergie pure, ce que vous appelez l'esprit, est ce que Dieu est. Cette essence est véritablement le Saint-Esprit. Par un processus à travers lequel l'énergie devient matière, l'esprit s'incarne dans la dimension physique. Pour ce faire, l'énergie ralentit littéralement, en modifiant son oscillation ou ce que vous appelleriez sa vibration. Ce qui est tout le fait par segments, c'est-à-dire que des segments du tout font cela. Ces individualisations de l'esprit sont ce que vous avez choisi d'appeler des âmes. En vérité, il n'y a qu'une seule âme qui se refaçonne et se reforme. Cela pourrait s'appeler la reforme. Vous êtes tous des dieux en formation. Dieu en formation. Voilà votre contribution, et elle se suffit à elle-même. Pour simplifier, disons qu'en prenant la forme physique, vous en avez déjà fait assez. Je ne veux rien de plus. Je n'en ai aucun besoin. Vous avez vraiment contribué au bien commun. Vous avez permis à ce qui est commun, l'unique élément commun, de faire l'expérience de ce qui est bon. Même vous avez écrit que Dieu avait créé le ciel et la terre, et les animaux terrestres, et les oiseaux, et les poissons de la mer, et c'était très bien. Le bien n'existe pas, il ne peut exister, d'une façon expérientielle sans son contraire. Par conséquent, vous avez également créé le mal, qui est la marche arrière, ou la direction contraire du bien. C'est le contraire de la vie, et ainsi vous avez créé ce que vous appelez la mort. Mais dans l'ultime réalité, la mort n'existe pas non plus. Elle n'est qu'une concoction, qu'une invention, qu'une expérience imaginaire par laquelle la vie acquiert plus de valeur à vos yeux. Ainsi, le mal, c'est vivre à rebours. Vous êtes si malin dans votre langage. Vous y enfouissez une sagesse secrète que vous ne soupçonnez même pas. Ainsi, quand vous comprendrez toute cette cosmologie, vous comprendrez la grande vérité. Vous pourriez ensuite ne jamais exiger d'un autre être qu'il vous donne quelque chose en retour de votre partage des ressources et des nécessités de la vie physique. Question. Aussi beau que cela soit, il y a encore des gens qui appelleraient cela du communisme. Réponse. S'ils le veulent, alors qu'ils le fassent. Mais je te dis ceci. Tant que votre communauté d'être ne saura pas être en communauté, vous ne ferez jamais l'expérience de la sainte communion et ne pourrez savoir qui je suis. Les cultures hautement évoluées de tout l'univers comprennent profondément tout ce que j'ai expliqué ici. Dans ces cultures, il ne serait aucunement possible de ne pas partager. Il ne serait pas possible non plus de songer à exiger des prix toujours plus exorbitants en proportion de la rareté d'une nécessité. Seules des sociétés extrêmement primitives feraient cela. Seuls des êtres très primitifs verraient là une occasion de saisir la rareté de ce qui est nécessaire à la collectivité. L'offre et la demande ne mènent pas le système des EHE. Elles font partie d'un système qui, selon les humains, contribue à leur qualité de vie et au bien commun. Mais du point de vue d'un être hautement évolué, votre système viole le bien commun, car il ne permet pas que ce qui est bon soit vécu en commun. Une autre caractéristique distinctive et fascinante des cultures hautement évoluées, c'est qu'elles n'ont aucun mot ni son, ni aucune autre façon de transposer le sens, le concept de « votre » et de « mien ». Les biens personnels n'existent pas dans leur langage, et si on devait parler en langage terrestre, on ne pourrait qu'utiliser des articles pour décrire des choses. En utilisant cette convention, « ma voiture » devient « la voiture » avec laquelle je suis à présent. Mon partenaire ou mes enfants devient le partenaire ou les enfants avec lesquels je suis maintenant. L'expression « avec maintenant » ou « en présence de qui » est ce qui se rapproche le plus, dans votre langue, de ce que vous décririez comme la propriété ou la possession. Ce dont vous êtes en présence devient le cadeau. Ce sont les véritables présents de la vie. Ainsi, dans la langue des cultures hautement évoluées, on ne pourrait même pas parler en termes de « ma vie ». On ne pourrait que communiquer la vie en présence de laquelle je suis. C'est comme lorsque vous dites « être en présence de Dieu ». Lorsque vous êtes en présence de Dieu, et vous l'êtes, toutes les fois que vous êtes en présence les uns des autres, vous ne songeriez jamais à garder à l'écart de Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire toute partie de ce qui est. Vous partageriez naturellement, et en part égale, ce qui est à Dieu avec toute partie de ce qui est Dieu. En réalité, l'intention spirituelle sous-tend la totalité des structures sociales, politiques, économiques et religieuses de toutes les cultures hautement évoluées. C'est la cosmologie de la vie entière, et seul le fait de ne pas observer cette cosmologie, de ne pas la comprendre et de ne pas vivre en elle, engendre toute la discorde de votre expérience sur la Terre.